Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, que faire des individus dangereux ? C'est toujours la même question qui est posée après chaque attaque terroriste. Les assaillants avaient-ils été repérés ? Et si oui, pourquoi n'ont-ils pas été neutralisés avant de passer à l'acte ? Ainsi, Radouane Lakhdim, le quadruple meurtrier de l'Aude, à Carcassonne et à Trèbes, était-il fiché S et avait fait l'objet d'un suivi par les services de renseignement en 2016 et 2017 ? Pour autant, était-il possible de l'empêcher de nuire ? À moins de considérer que sa présence sur le fameux fichier était une preuve de son extrême dangerosité et qu'à ce titre, il aurait dû être enfermé, ce que d'aucuns défendent. À moins de cette considération, donc difficile de décider de son incarcération sans déroger au principe du droit. Et d'ailleurs, la question ne se pose pas seulement en dehors du monde de la détention, mais également à l'intérieur de la prison. Les détenus dangereux, qu'il s'agisse de terroristes ou de criminels de droit commun, posent un double problème. Celui de leur proximité avec les gardiens et les autres détenus et les risques qu'ils leur font courir, alors faut-il les isoler? Et celui de leur retour à la vie civile lorsque leur peine est achevée, le cas échéant, faut-il les maintenir en détention? Alors que faire des individus dangereux? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Roland Coutenceau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, expert auprès des tribunaux. Vous présidez la Ligue française pour la santé mentale et vous avez publié l'an dernier chez Duno, ouvrage collectif, Violences ordinaires et hors normes. Pour discuter avec vous, Georges Fenech, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire national Les Républicains en charge de la justice, ancien député, vous avez présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2005. Vous êtes également ancien magistrat et aujourd'hui consultant pour la chaîne CNews. Et puis notre troisième invité est au téléphone. Il s'agit de Laurence Blisson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate et vous êtes la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, une des principales organisations professionnelles de ce secteur. Alors je voudrais d'abord qu'on commence, comme on le fait assez régulièrement, par peut-être un petit effort de définition, puisqu'on parle d'individus dangereux. Qu'est-ce que c'est qu'un individu dangereux du point de vue du psychiatre Roland Coutenceau ?
Alors bien sûr, moi je vais parler dans mon champ, et donc c'est notamment ce concept de dangerosité criminologique, qui est donc d'ailleurs un concept plus criminologique que psychiatrique, donc quelqu'un qui est susceptible de récidiver, ça c'est la dangerosité criminologique, mais donc un individu dangereux, c'est quelqu'un qui aurait, soit dans sa personnalité, soit dans ses convictions, soit dans ce qu'il a déjà donné à voir, bien qu'il n'ait pas encore fait de passage à l'acte, qui pourrait faire penser qu'il pourrait commettre un passage à l'acte problématique. Donc on voit que c'est possible d'évaluer les choses, mais comme je dis souvent, au mieux, c'est un concept probabiliste. Tout à l'heure, peut-être, je pense que Georges Fenech a peut-être des éléments plus concrets, mais moi, ce qui m'intéresse en tant que psychiatre, quand j'entends qu'il y a, je parle sous le contrôle de nous-mêmes, il y a 12 000, par exemple, fichiers S. Donc, bien sûr, dans ma logique de psychiatre criminologue, je me dis, est-ce qu'il y a une hiérarchisation du risque chez ces 12 000 fichiers, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas mettre un ange gardien derrière chaque fichier S. Donc l'intelligence sociale des démocraties, c'est voir dans les sujets qui sont fichiers S, ce qui montre que c'est un risque. On voit que certains des attentats, pas tous, ont quand même été commis par des gens qui ont fichiers S. Est-ce qu'on peut s'autoriser à évaluer, fût-ce de façon probabiliste, le risque de passage à l'acte de ces fichiers S? Voilà quelque chose qui m'intéresse, moi, dans mon regard de psychiatre, par rapport au champ social de ces fichiers S dans les démocraties.
En tout cas, ça, c'est votre approche de la dangerosité, votre définition. Georges Fenech, est-ce que vous la partagez? Et est-ce que, du point de vue de l'ancien magistrat qui est le vôtre, c'est une notion qui vous paraît pertinente? Est-ce que c'est une notion qui rentre dans le cadre juridique, par exemple?
L'état de dangerosité, l'état dangereux, c'est un véritable défi pour la psychiatrie légale, pour la justice, pour les agents de probation, pour les juges d'application des peines. Comment le repérer et comment le traiter? Et Roland Coutenceau a raison de rappeler qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a deux grandes catégories d'individus, on peut dire, dangereux. Il y a la dangerosité psychiatrique. Et ça, Roland Coutenceau, c'est son domaine d'application, son champ d'activité. C'est le fou, pour parler comme tout le monde. Celui qui a ses facultés mentales altérées, voire abolies. C'est celui qu'on doit interner, hein, avec un placement d'office ordonné par le préfet. Et aujourd'hui, la justice peut le faire. Et puis, il y a à côté de cette dangerosité psychiatriques, dont très peu commettent des crimes, d'ailleurs, c'est infinitésimal, hein, c'est rien. Il y a eu l'affaire de Pau, on s'en souvient, ce fou psychiatrique qui avait décapité deux infirmières, on s'en souvient. Et puis, il y a à côté la dangerosité criminologique, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Là, on a affaire à des individus qui savent parfaitement ce qu'ils font. C'est les tueurs en série, par exemple, qui commettent des crimes en connaissance de cause, mais ce sont des psychopathes en réalité, qui ont une grande perversité, mais qui ne sont pas, qui sont conscients encore une fois de commettre des actes.
Vous voyez ? Quand vous dites c'est plus difficile, c'est plus difficile à repérer, à identifier.
C'est cette deuxième catégorie qu'il est plus difficile à repérer, à évaluer, c'est tout le problème de l'évaluation de cette dangerosité. Et là, on en discutera, il y a plusieurs écoles, au Canada, en France, aux Pays-Bas. Et puis, que faire sans porter atteinte aux libertés individuelles, à ce qu'est notre état de droit, pour empêcher le passage à l'acte en respectant les règles juridiques. Voyez-vous, c'est ça la question difficile.
C'est ça aussi pour vous la question difficile, Laurence Blisson ?
La question de la définition des personnes dangereuses, elle est extrêmement difficile. En réalité, elle heurte de plein fouet le droit pénal, ses grands principes, parce que ce que connaît la loi, ce que connaissent les juges, c'est évidemment les personnes contre lesquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles ont commis ou qu'elles préparent une infraction pénale. Puisque vous le savez, en matière terroriste notamment, les infractions d'anticipation sont les principales infractions. Ce que l'on connaît, ce sont les personnes condamnées. Et le principe fondamental de notre droit pénal humaniste, c'est un principe de responsabilité qui consiste à dire qu'une personne est condamnée, peut être privée de sa liberté dans une démocratie, sur la base de ses actions et non pas sur la base d'une potentialité. Or, on a un mouvement désormais de fond dans le droit pénal, dans le droit administratif, c'était aussi la logique dans l'état d'urgence, qui consiste à se déplacer, à s'éloigner de cette logique de responsabilité pour identifier, essayer de détecter une potentialité criminelle. Et là, on voit bien qu'on part dans un flou, qui est un flou extrêmement préoccupant dans une démocratie, parce que dès lors qu'on essaie d'identifier cette dangerosité, on va essayer d'identifier des critères, on va essayer d'identifier des éléments qui peuvent laisser penser que, et on va envisager d'intervenir en amont.
Eh ben, prenons un exemple, par exemple, Laurence Blisson, dans le code pénal, qui punit, par exemple, hein, il y a énormément de choses, bien sûr, l'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Là, on est typiquement dans quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Est-ce que, cette association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, il y a même également un délit d'entreprise terroriste individuel, mais en vue de préparer des actes terroristes, est-ce que ça participe de ce flou pour vous ?
On est déjà effectivement dans le domaine de l'anticipation et lorsqu'on étudie la jurisprudence en la matière, on voit qu'on est sur des exigences qui sont extrêmement lâches en la matière. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'identifier de manière précise le projet qui est formé par les personnes. Il n'est pas nécessaire d'identifier toutes les personnes qui sont dans l'entente. Il n'est pas nécessaire. Il peut suffire que la personne, finalement, sans avoir connaissance de l'ensemble du projet, ait simplement pris le risque d'appartenir à une nébuleuse. Ça, c'est ce que relève la jurisprudence. Donc, vous voyez, le droit pénal est déjà travaillé de l'intérieur, de manière extrêmement lourde, et on en a vu des effets par le passé, notamment dans des affaires anciennes, désormais le procès Chalabi, dans lesquelles on avait, au départ de l'enquête antiterroriste, des coups de filet massifs qui ont abouti au final à énormément de non-lieux de relax et finalement une logique judiciaire qui prend du risque, qui prend le risque de rompre avec les principes du droit pénal.
Alors on va voir Laurence Blisson, si vous voulez bien, on va voir ce qu'en pensaient Georges Fenech et Roland Coutasseau. Je vais revenir bien entendu vers vous hein, dans peu de temps, dans le courant de l'émission. Georges Fenech, est-ce que vous partagez le point de vue qui vient d'être émis par Laurence Blisson en disant bah voilà, le droit pénal, il participe déjà de cette tendance à vouloir anticiper peut-être de plus en plus des actes et les anticiper notamment en les pénalisant.
C'est vrai. Le droit, d'une manière générale, il suit un petit peu les évolutions de la société. Le droit évolue. Et la vague de fond dont parle Laurence Plisson, c'est aussi une vague de la société tout entière qui ne tolère plus aujourd'hui que le repérage d'individus. On parle beaucoup des fichiers S et du terrorisme, bien sûr, de cette actualité dramatique, puissent passer à l'acte alors qu'ils avaient été repérés. C'est donc un mouvement de fond, effectivement, mais pour autant, il faut rester dans le cadre, encore une fois, d'état de droit. Pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs, il y a quand même des éléments matériels qui sont rapportés par les enquêteurs et la justice pour condamner jusqu'à 20 ans d'emprisonnement de réclusion. L'association de malfaiteurs à but terroriste, ça peut aller jusqu'à 20 ans. On l'a vu avec Abdelkader Merah, par exemple, le frère de Mohamed Merah. Encore faut-il ramener des preuves, non pas d'intentionnel, mais des preuves matérielles, c'est-à-dire faire partie d'un groupe, commettre déjà des actes préparatoires. Le fait, par exemple, de détenir des armes, c'est pas uniquement de la détention illégale d'armes, ça peut devenir une association de malfaiteurs. Donc on n'est pas uniquement dans le domaine de l'intention, de la prédiction, on est bien là sur des faits précis. Les tribunaux correctionnels de Paris, les cours d'assises condamnent sur des faits précis qui matérialisent ce groupement criminel en vue de commettre un acte de terrorisme, mais qui intervient évidemment en amont de la réalisation de l'acte, par définition.
En quoi l'expertise psychiatrique, Roland Coutanceau, peut permettre justement de, comment dire, d'expliquer qu'il peut y avoir une intentionnalité de passer à l'acte, et en quoi ça peut aider à ajouter aux preuves formelles de l'existence d'une association de malfaiteurs qu'elle peut être à but terroriste, par exemple?
Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, nous experts, c'est forcément des gens, et le ministre de l'Intérieur parfois le souligne, qui ont été dépistés à temps, avant que l'attentat ne soit proféré. Donc, évidemment, on voit que là, quand même, il y a souvent des preuves réelles d'organisation. Et puis, bien sûr, quand quelqu'un est interpellé, nous, notre angle, c'est d'abord étudier la personnalité, ça c'est une chose, mais surtout, le plus intéressant dans l'esprit de votre question, c'est le système motivationnel. Et donc, évidemment, un psy va avoir d'autant plus de choses à dire que le sujet parle. Ça m'est arrivé que, par exemple, quelqu'un s'assied devant moi et il dit « Écoutez, j'ai rien contre vous, mais je ne respecte pas la justice, donc je viens vous dire bonjour, mais je n'ai rien à vous dire. » Donc évidemment, je ne vais pas conclure grand-chose. Par contre, on le voit, ce qui m'a étonné peut-être, et là, je voudrais aussi le livrer, parce que souvent, le terroriste apparaît comme quelqu'un particulièrement déterminé. On peut penser au frère Cauchy, par exemple, un petit peu. On peut penser à celui qui était dans l'histoire de l'hypercachère. De temps en temps, vous avez des sujets déterminés, qui sont totalement entiers, qui sont presque des hommes commandos. Mais ce qui m'a frappé depuis quelques années, où j'ai examiné un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, qui étaient interpellés pour avoir essayé de fomenter un attentat, c'est des personnalités aussi beaucoup plus friables, des mineurs, des gens moins structurés, des gens qui étaient manipulés par quelqu'un qui tirait les ficelles, des jeunes dont certains revenaient en arrière, faisaient une critique. Donc finalement, ce qui est le défi de nos sociétés démocratiques, c'est d'analyser pourquoi il y a un certain nombre de gens avec des facteurs de dangerosité extrêmement variés, donc qui sont infiltrés finalement par cette idéologie terroriste jusqu'au point de construire avec d'autres un projet visant un attentat dont certains savent que cet attentat comprend leur propre mort ou leur propre suicide. En un sens, le mot de la criminologie qui est propre à ces sujets, c'est le meurtrier de masse. On a d'abord connu les meurtriers de masse Columbine. Vous vous rappelez un petit peu ces lycées américains dont des sujets qui ont une motivation, on pourrait dire, personnelle d'agressivité, peut-être que vers leurs collègues, vers le lycée, un espèce de ressenti, de préjudice comme ça. Et donc, une des formes idéologiques du meurtrier de masse, c'est le sujet qui a une propension à se projeter avec d'autres dans un attentat terroriste dont il sait. C'est ça qui est comprennent, peut-être ceux qui nous écoutent, que finalement, ce dessein, certes radical, certes tragique pour les victimes, va souvent se payer de sa propre mort. Voilà un peu le profil sur le plan psychiatrique analysé chez ces sujets.
Georges Fenech, est-ce que la réponse judiciaire doit être modulée en fonction du niveau de dangerosité d'un individu? Ici, on prend par exemple le cas des fameux fichiers S. Alors, le fichier S, on sait que ça n'est pas une bible qui permet de détecter absolument des individus dangereux qui vont forcément passer à l'acte. Il y a des niveaux, ça va de 1 à 16, mais même les différents niveaux ne disent pas forcément grand-chose sur ce qu'est la dangerosité de chacun, à supposer que ça le soit, c'est-à-dire à supposer que le niveau 1, par exemple, soit le niveau de l'individu le plus dangereux. Est-ce que, selon vous, en fonction des niveaux qui seraient celui des individus, il faudrait une réponse judiciaire différente, c'est-à-dire le plus dangereux, oui, on l'incarcère, par exemple, pour prémunir la société, et puis en fonction de l'avancement dans le niveau, on apporte des réponses judiciaires un peu différentes?
Non, attention, le fichier S ne comporte pas des niveaux de dangerosité, c'est pas du tout ça.
Oui, c'est ce que je viens de dire.
Attention, il y a différentes.
Même
fiches.
Si on peut lire quand même sur un certain nombre de sites d'information des informations qui disent voilà, le niveau 1 c'est le plus dangereux, alors que ça n'est pas le cas.
Je ne connais pas ce système, moi je ne le connais pas. Il y a plusieurs fiches S, c'est pas uniquement des radicalisés d'ailleurs, ça peut être des manifestants, on a vu des zadistes par exemple. Donc c'est pas uniquement les radicalisés islamistes, les fiches S, c'est la sûreté, sûreté nationale. Il faut se référer surtout au FSPRT, c'est un autre fichier, le fichier des signalements de la prévention de la radicalisation à but terroriste. Il y a à peu près 20 000 noms qui sont inscrits sur ce fichier, qui est géré par l'UCLAT. Il n'y a pas non plus... il y a quand même des éléments sur la dangerosité qui fait que si les services de renseignement considèrent que l'individu est en capacité de passer à l'acte et particulièrement dangereux, alors on le classe, si vous voulez, quelque part dans le haut du spectre, comme on dit, et ils sont suivis par la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est pilote en matière de renseignement dans le pays. Si ce sont des individus qu'on a repérés avec ce qu'on appelle des signaux faibles, fréquentation de certaines mosquées salafistes, fréquentation de certains individus, quelques discours antisociaux, à ce moment-là, ils sont suivis par les services locaux, le SCRT, le Service Central du Renseignement Territorial, voyez-vous.
Mais il n'y a mais ce pas. Ce qui compte, c'est la surveillance.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fiche dont on parle beaucoup, sur laquelle on fantasme beaucoup, c'est un outil de suivi. On inscrit tout dessus, c'est-à-dire ses fréquentations, ses passages de frontières. Ça n'a pas du tout de conséquences juridiques. On ne pourrait pas incarcérer quelqu'un qui uniquement parce qu'il est fichier S. Ou alors, vous arrêtez immédiatement le travail des renseignements généraux parce qu'il n'y aura plus aucune fiche nulle part. C'est simplement un outil de suivi et de surveillance, voyez-vous.
Laurence Blesson, si le principe de la détention avant le passage à l'acte est problématique, qu'est-ce qu'on fait quand une personne est repérée, considérée justement comme dangereuse? Est-ce que c'est simplement la surveillance qui doit être mise en place, mais qu'il ne peut pas y avoir en aucun cas d'incarcération?
Alors, évidemment, tout le travail des policiers, des services de renseignement, des magistrats en charge du terrorisme, c'est précisément d'identifier à partir de quel moment est-ce qu'on peut judiciariser une affaire, judiciariser plus exactement une surveillance, c'est-à-dire passer du stade de la simple surveillance à une affaire judiciaire avec potentiellement des mesures de contrainte, souvent de la détention provisoire en réalité, dès lors qu'il y aura eu une mise en examen. On est vraiment dans un débat dans lequel il y a beaucoup de confusion. Je crois qu'il faut vraiment dire très clairement qu'effectivement, le fichier FPR, le fichier des personnes recherchées, qui contient des fiches S de plusieurs niveaux, est en effet un outil de surveillance policière. Qu'est-ce que disent ces fiches? Elles disent aux policiers qui contrôlent une personne, contrôlez-le sans attirer son attention et signalez sa présence à telle ou telle personne. Prenez note de telles informations, appelez immédiatement tel service. Et donc on a, selon le niveau évidemment d'urgence, des consignes qui vont être différentes. Donc je crois qu'il faut absolument écarter l'idée que l'appartenance au FPR en ayant une fiche S, ou bien à cet autre fichier, qui est le fichier des personnes radicalisées, puis justifier une quelconque privation de liberté, c'est absurde. Ce que sont ces fichiers, ce sont des outils policiers. Ensuite, on se focalise, le débat public se focalise sur ces outils, alors même que ce qui est en cause, c'est évidemment le travail quotidien des services de renseignement, des services de police et des services de justice. Et au quotidien, ces services qui ont comme outil notamment des infractions, qui sont des infractions de l'anticipation, s'interrogent sur le fait de savoir s'il est opportun d'interpeller la personne, si c'est trop tôt en termes d'enquête, si c'est trop tôt, parce qu'en réalité on a beaucoup trop anticipé sur un éventuel passage à l'acte, parce que la préoccupation, elle doit être celle de se dire, on peut avoir des actes matériels qui sont des actes totalement légaux. On peut avoir une appartenance à un groupe, il n'y a pas de groupe terroriste à proprement parler reconnu comme tel en France, il n'y a pas de liste des groupes terroristes par exemple, donc on va avoir des personnes qui par exemple vont avoir des activités physiques, se déplacer dans des endroits, on pourra considérer que c'est de repérage, on pourra aussi considérer qu'en réalité c'est juste leur vie, qui vont fréquenter telle ou telle personne. À partir de quel moment est-ce qu'on estime qu'il doit y avoir une intervention judiciaire, et à partir de quel moment est-ce qu'il y aura des éléments suffisants pour justifier une privation de liberté? C'est toute la difficulté du travail, et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement compliqué de revoir les choses après coup en disant « Ah, mais telle personne était fichée S, était fichée, etc. » Et donc, pourquoi n'a-t-elle pas été interpellée avant ?
Georges Fenech.
Alors, on vient d'évoquer le cas des individus qui peuvent être, comme on dit, judiciarisés. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui permettent de saisir un juge qui peut mettre en examen et prononcer une détention. Mais n'oubliez pas que depuis la sortie de l'état d'urgence, on a intégré dans le droit commun des éléments de cet état d'urgence. La loi du 30 octobre 2017 permet notamment, en dehors de toute judiciarisation, donc bien en amont de tout passage à l'acte, à l'autorité administrative, préfet, considérant un individu pouvant porter atteinte grave à l'ordre public, de le placer sous surveillance administrative. Et c'est concret, cela. Ça veut dire venir pointer une fois par jour au commissariat, ça veut dire interdiction de fréquenter tel ou tel lieu, interdiction de sortir de tel arrondissement, et qui plus est, on peut aussi, avec son accord, décider, dans le cadre d'une assignation à résidence, qui est sur le périmètre de la commune, en fait, la pose d'un bracelet électronique. Donc vous voyez que déjà, dans notre droit commun, aujourd'hui, beaucoup l'ont critiqué d'ailleurs, je pense que ma collègue Laurence Plisson n'y est pas forcément favorable, comme une partie des magistrats, on a restreint les libertés individuelles d'un tel individu qui n'est pas passé à l'acte, mais qui présente un caractère dangereux.
Et sans passer par la case détention.
Absolument.
Mais alors, une fois qu'on est dans la case détention, justement... Alors,
Roland, je vous dire un dernier point sur avant la prison, avant qu'ils soient interpellés pour quelque chose. Moi, ce qui me semblerait la chose la plus intéressante pour les démocraties, je ne sais pas si ça se fait, j'étais pas sollicité, mais une évaluation pluridisciplinaire des fichiers S, pour créer des niveaux de risque. Alors évidemment, ça serait
Comme je suis d'accord avec ça.
Ça serait purement...
C'est ça le vrai débat.
Des choses qui seraient des hypothèses.
Ça serait peut-être plus compréhensible aussi d'ailleurs
regardez,
pour le public.
Moi je suis un pragmatique. On ne peut pas surveiller 12 000 fichiers S. Par contre, on peut peut-être bien en surveiller 100. Et donc moi, de mon point de vue de psychiatre criminologue, je pense que une des choses les plus intéressantes pour les démocraties, c'est oser... avoir des évaluations de niveau de risque. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, c'est une plausibilité probabiliste. Hein, c'est pas bon. Mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant quand même pour les démocraties face à ce défi qu'est prévenir avant l'acte. Et puis après, on va passer en prison.
Vraiment, je suis heureux d'entendre cette proposition parce que je la fais mienne depuis quelque temps. Et je vais vous le dire à votre micro, d'ailleurs, pour la première fois, je pense. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'orienter vers des structures qui seraient des centres d'observation et d'évaluation de la dangerosité de ces individus, qui seraient des centres de jour, parce qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un 24 heures sur 24, ça serait de la détention administrative, ça ne serait pas acceptable pour notre droit, mais on pourrait imaginer des centres d'observation sous contrainte tout de même de jour, voyez-vous, l'individu pouvant rentrer chez lui le soir, où il serait évalué par une commission pluridisciplinaire sous le contrôle d'un JLD qui pourrait lever éventuellement la mesure. On serait quand même...
Le juge de la liberté à détention.
Parce que continuer à les filer comme ça de loin, les surveiller, bornage téléphonique, etc., pof, un jour il passe à l'acte. C'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui, d'ailleurs, le dernier, celui de Trèbes, était convoqué pour une évaluation par les services de renseignement. Il avait sa convocation en poche.
Avant de passer à la case prison, je voudrais entendre l'avis, bref, s'il vous plaît, Laurence Blisson, par rapport à cette double proposition.
Je crois qu'on est en train d'essayer de créer des hybridations juridiques qui n'ont pas beaucoup de sens. J'entends le souci de l'évaluation pluridisciplinaire. Dans quel cadre est-ce qu'elle pourrait s'inscrire? Ça me paraît problématique dès lors qu'on est vraiment dans le cadre où on ne reproche rien concrètement à ces personnes. On est dans un domaine où on ne peut pas imposer à des personnes d'aller dans un centre de jour. Et puis je crois qu'il peut y avoir également des effets extrêmement contre-productifs à cette attention étatique portée sur des personnes à raison de critères de dangerosité qui auraient été un peu préétablis, des critères de radicalisation. Moi, je pense que ce sont des propositions dont je perçois bien la préoccupation. Je pense que c'est complexe de définir la dangerosité. Moi, j'exerce en tant que juge d'application des peines. Je sais combien il est difficile de déterminer une dangerosité psychiatrique, criminologique, etc. Je crois qu'il faut être vigilant sur ce type de proposition.
Alors cette question de l'évaluation, cette possibilité de l'évaluation, elle existe aujourd'hui dans le cadre de la détention. Il y a notamment un plan national de prévention de la radicalisation qui a été présenté par le gouvernement fin février, avec la création de quartiers d'évaluation de la radicalisation, par lequel sont censés passer tous les détenus qu'on considère comme radicalisés, avec ensuite des quartiers de prise en charge des personnes radicalisées sur le modèle des quartier pour détenus violents. Quand on est dans le cadre de la détention, Roland Coutenceau, comment on gère justement les individus qu'on considère comme dangereux? Est-ce que l'idée, c'est justement d'abord de les évaluer et ensuite, le cas échéant, de les isoler alors, des autres parce qu'ils peuvent être dangereux?
Regardez comme c'est difficile. En fonction, évidemment, de la sensibilité politique, à un moment donné, il y avait à Fresnes un directeur qui avait pris l'initiative un peu d'inscrire dans un quartier les gens qui étaient radicalisés. Bon, donc après, parfois la sensibilité politique dit non, ça n'intéresse pas, il ne faut pas le faire. Et puis maintenant, finalement...
C'est la même sensibilité politique qu'il a créée et qu'il a fermée. Ça a été créé sous Mme Taubira. Non, mais il faut être précis. Et ça a été terminé, fermé par Jean-Jacques Urvoas, parce que ça n'a pas fonctionné, ces unités dédiées.
Alors, moi, je pense que il faut toujours avoir une idée intellectuelle de quelque chose. Par exemple, moi, ce que je trouve en France, c'est qu'on s'est excité sur la déradicalisation sans avoir de bonne théorisation pourquoi quelqu'un est radicalisé et comment il peut être déradicalisé. Mais je vais vous dire des choses de bon sens. D'abord, quelqu'un qui a une conviction inébranlable. Qu'est-ce que je sais en tant que psychiatre ? Qu'on perd son temps statistiquement à essayer de le déradicaliser. Donc déjà, il y a en prison des gens entiers dont la stratégie pénitentiaire pourrait être cela, il faut les isoler des autres, j'ai employé un mot un peu populaire, pour les contaminer pas. Par contre, qu'est-ce que je vois moi en tant que psychiatre aussi? Je vois des gens qui ont été radicalisés, mais qui ont été manipulés. J'ai vu et j'ai été frappé depuis quelques années, des jeunes, des moins jeunes, des adolescents, des gens chez qui la croyance est un peu poreuse, elle est un peu comme un marshmallow, vous voyez, j'emploie une image comme ça. Et j'ai vu aussi en expertise des gens dont j'estime à tort ou à raison, j'ai osé le dire, qu'ils étaient déradicalisés, c'est-à-dire qu'ils ont été revenus du trip. Donc, au fond, le problème de la prison, c'est pas forcément d'isoler tous les gens qui sont juridiquement sous le vocable association de malfaiteurs en vue d'une action terroriste, mais c'est plutôt d'avoir une stratégie en disant, il y en a, ils sont tellement entiers, bon, finalement, eux, on va les isoler des restes. Et puis, par contre, il y a des gens dont l'évaluation pluridisciplinaire, et je pense que c'est ce qu'essaie de faire la pénitentiaire, va démontrer que la conviction est plus friable. Et là, effectivement, je pense que si on veut faire un vrai travail en utilisant le temps de peine, faut continuer à être dans ce défi. Est-ce que certains on ne pourrait pas un peu les déradicaliser. Donc, je vais le dire d'une autre manière, je termine là-dessus. Pour moi, la radicalisation, c'est une croyance. Il y a des gens qui sont croyants de la vie à leur mort, qui ne vont pas changer. Il y a des gens dont la croyance, il y a des repentis, par exemple. Moi, je dis à la société, il y a une intelligence sociale dans les démocraties de montrer que des gens sont revenus de cette croyance en Daesh. Moi, j'ai vu certains des jeunes qui sont revenus, par exemple, de Syrie, dont j'estime qu'ils ont un peu débrayés, ils sont revenus en arrière, ils ont vu là-bas quelque chose qui n'était pas, qui ne correspondait pas à l'idéalisation de ce qu'ils faisaient quand ils sont partis. Donc il y a des gens très
dangereux. Il ne faut pas se tromper dans la façon dont on les place en détention.
Oui, il y a une intelligence stratégique pour utiliser le temps de peine. Mais c'est vrai que je pense que en distinguant, moi je vais donner trois idées. Il y a des gens qui sont très entiers, très radicalisés, ou moi je vois en tant que psychiatre des problématiques paranoïaques. Je dirais on perd son temps finalement. Voilà, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Ils sont cette conviction. Il y a des gens qui ont été influencés. Vous avez vu que dans certains dossiers, on a vu des tireurs de marionnettes. Il y avait quelqu'un qui téléphonait un petit peu aux jeunes en lui disant prépare, mais qu'est-ce que tu fais, avance. On voit bien que là, la dimension manipulatoire de quelqu'un fait que quand le jeune s'aperçoit que finalement il est le dindon de la farce, il est toujours vivant, ses parents viennent le voir, et on peut revenir en arrière. Donc il y a une intelligence stratégique pour utiliser le temps de peine. Voilà ce que je dis. Et ça commence à être un projet qui est encore mal théorisé, qui peut se faire dans les prisons françaises.
Laurence Blesson, est-ce que la justice dispose des outils justement pour prendre les meilleures décisions en termes de placement des détenus, plus ou moins à l'isolement? Est-ce que ça n'est pas presque aussi difficile finalement que de décider de savoir si un individu va être mis ou pas en détention en fonction de son niveau de dangerosité?
Alors, le placement à l'isolement relève de l'administration pénitentiaire, voilà. C'est une décision pénitentiaire. La difficulté, c'est que précisément les critères qui aboutissent à cette logique d'isolement sont des critères qui posent question. Soit on va sur un critère objectif qui consiste à dire une personne est condamnée, mise en examen pour terrorisme. Mais à ce moment-là, on évite toutes les personnes qui peuvent être effectivement dans une volonté de passage à l'acte criminel, mais qui sont là pour des faits de droit commun. Mais si on va vers ces personnes-là, alors on tombe sur des critères qui peuvent être des critères extrêmement flous. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme a publié avant-hier un avis sur cette question de la déradicalisation ou de la radicalisation, en s'inquiétant, en s'alarmant précisément de nombreux critères, parfois discriminatoires, parfois qui relevaient d'éléments qui sont surinterprétés d'une certaine manière, qui pouvaient fonder les grilles notamment d'interprétation de la radicalisation. Alors il y a évidemment désormais cette logique de l'évaluation. L'évaluation, ça n'est jamais simple. Et le problème, c'est que dans cette idée finalement de l'isolement, on affirme aussi, d'une certaine manière, le caractère irrécupérable de certains. Et ça, dans un droit pénal humaniste, c'est quelque chose qui est hautement problématique. Et on risque, par ailleurs, en imposant de l'isolement, c'est-à-dire des conditions de détention dures, aussi de produire les effets qu'on a cherché à éviter. Donc il y a vraiment là-dessus des inquiétudes fortes. On a un droit, par exemple, de l'application des peines en matière terroriste qui a été modifié l'été dernier vers une restriction des possibilités d'aménagement de peine qui consiste à dire, en gros, que une personne condamnée pour des actes de terrorisme va devoir faire sa peine jusqu'au bout avec des facultés d'aménagement de peine qui sont très limitées. Je crois que c'est vraiment une évolution qui est une évolution néfaste parce qu'elle laisse croire que la seule solution vis-à-vis de ces personnes, c'est finalement de les mettre à distance de la société pendant un temps, et ça n'est pas de travailler vers leur réinsertion, leur réintégration dans la société, qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente, mais qui doit rester un objectif, parce qu'une personne doit exécuter sa peine, rien que sa peine. Si ensuite on estime qu'elle est dangereuse, eh bien les services de renseignement, les services d'enquête doivent prendre finalement le relais, mener des surveillances et identifier éventuellement une nouvelle préparation d'infraction. Et à ce moment-là, on repart dans un schéma pénal. Mais on ne peut pas être dans une logique dans laquelle on est finalement sur un refus du droit pénal dans lequel on s'éloigne de tous ces principes essentiels qui consistent à dire que c'est la responsabilité de ces actes qui fondent l'enfermement en France dans une démocratie.
Georges Fenech.
Oui.
Je vous laisse réagir à ce que vous venez d'entendre sur
Tout à fait à l'opposé de ce qui vient d'être dit. de manière très sereine, hein, je le dis. Hein. On ne peut pas traiter les détenus terroristes comme des détenus de droit commun. C'est pas possible. Que le législateur ait voulu restreindre effectivement les possibilités de libération, de permission, etc., ça me paraît aller du bon sens.
Sur la question de l'isolement,
on est vraiment sur un. Il faut être sur un principe de réalité. Il y a quand même eu plus de 250 morts en France depuis les attentats de Mohamed Merah. On ne peut pas continuer avec de l'angélisme, pardon hein, pour ma collègue, tel que je viens de l'entendre. Les détenus terroristes sont des détenus terroristes hein, et il est hors de question qu'ils bénéficient des régimes de droit commun très souples d'un délinquant de droit commun habituel. Donc je pense qu'il faut un traitement sur mesure pour ces individus qui ont déclaré une guerre à la société dans laquelle ils vivent.
Y compris lorsqu'ils ont terminé de purger leur peine. Là, j'ai lu dans un article du JDD récent qu'il y a 70 à 80 personnes qui ont été condamnées pour terrorisme qui vont sortir de prison dans les 2 ans.
Oui, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup et je pense que ces individus seraient tout à fait éligibles à la procédure de rétention de sûreté qui existe pour les criminels sexuels, notamment les criminels dangereux. Pourquoi a-t-on refusé d'appliquer cette procédure qui consiste, après la peine, à continuer à évaluer la dangerosité de ces individus dans des centres dédiés avant de pouvoir les relâcher complètement? Je pense qu'il faut qu'on soit responsable dans cette affaire.
Mais pourquoi est-ce que cette évaluation ne peut pas se faire dans le cadre de la peine? Et pourquoi elle doit se faire en dehors? C'est-à-dire, si vous vous évaluez un an après, par exemple, de la sortie, vous pouvez le faire un an avant.
Elle se fait un an avant. Mais au moment de la sortie, l'individu n'est pas forcément libéré de ses démons. Il peut encore présenter un état dangereux. Et on a mis en place des commissions pluridisciplinaires avec le premier président de la cour d'appel qui préside tout cela pour évaluer cette dangerosité. Ça ne fonctionne pas comme ça le devrait d'ailleurs, ça reste très marginal tout cela.
Donc en tout cas, vous dites que la rétention de sûreté.
J'en ai été le rapporteur de la loi, donc je soutiens ma loi.
De 2008, hein,
oui,
voilà.
Absolument. Oui, et je pense que c'est une loi qui n'est pas spécifique à la France d'ailleurs, qui existe au Canada, qui existe aux Pays-Bas. Il faut tenir compte de son état dangereux. Ne serait-ce que pour l'intéresser lui-même, qui est la plupart du temps un kamikaze qui veut se faire exploser.
Le principe de la rétention de sûreté, Roland Cotenceau.
Oui, alors, moi je suis un psychiatre humaniste, la législation n'est pas mon affaire. Par contre, j'ai travaillé 10 ans au Centre National des Prisons de Fresnes, où passent à préjugement tous ceux qui ont une longue peine, et donc ça m'a permis d'évaluer des gens par cycle de 60, etc. Donc ce que je pense, c'est que je pense que les sociétés démocratiques peuvent utiliser le temps de peine mieux qu'elles le font. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mieux évaluer sans discriminer. Par exemple, qu'en prison, il y ait des quartiers qui regroupent certaines personnes qui sont là pour association. Et donc, dans une logique terroriste, ils sont pas forcément stigmatisés, ils sont pas forcément traités différents des autres, mais le fait finalement qu'on les isole permet par exemple à la pénitentiaire d'organiser une équipe pluridisciplinaire, comme était celle du Centre National Historique des Prisons de Fresnes, où il y avait un psychiatre, un psychologue, un éducateur, des gens de la pénitentiaire, la direction, un travailleur. Donc moi je crois beaucoup à cette notion d'évaluation pluridisciplinaire, et donc on peut utiliser le temps de peine, puisque le temps de peine, moi je suis pas forcément pour muscler les conditions de détention. Ce qui m'intéresse dans mon champ, qui m'appartient, c'est au fond d'utiliser ce temps de peine pour mieux évaluer tous ces sujets. Et en même temps, vous voyez, il faut quand même avoir, je le disais, j'ai donné une idée tout à l'heure, je vais la répéter, mais parce que, par exemple, si on les met tous ensemble, sans aucune discrimination, sans une stratégie, c'est contre-productif, tout simplement. Par exemple, regardez, qu'est-ce que je vais dire en dynamique groupale? Vous avez des gens extrêmement entiers, radicalisés, qui vont effectivement faire pression sur les autres. Donc, je pense par contre que dans un certain nombre de jeunes que je vois, il y a des possibilités d'évolution. Et là, on utilise le temps de peine pour mieux évaluer sans les discriminer.
Laurence Blisson, d'un mot, et vraiment d'un mot, sur la rétention de sûreté. J'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Évidemment, c'est un refus absolu de cette logique. Robert Badinter le disait il y a 10 ans, on est en train de faire sombrer notre démocratie avec la rétention de sûreté. Elle part du postulat qu'on pourrait enfermer à vie, potentiellement, les personnes sur la base d'une vague dangerosité. Et ça, c'est une voie dans laquelle une démocratie ne peut pas aller, même lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. C'est un avertissement qu'a donné dans les années 70 la Cour européenne des droits de l'homme qui est essentiel, qui est de dire que même dans la lutte contre le terrorisme, les États démocratiques ne sauraient prendre n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée au risque de saper les fondements de la démocratie. C'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Évidemment, il faut lutter contre le terrorisme. Mais il ne faut pas le faire avec n'importe quel moyen.
Voilà, merci beaucoup Laurence Blisson, Georges Fenech et Roland Coutenceau d'avoir participé tous les trois à cette discussion que vous pouvez réécouter sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Leïla Saïdi, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Dulcer et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Clément Daté.